Bonjour. En Matthieu chapitre 19, 16 à 22, nous trouvons l'histoire de jeune homme riche. Vous vous souvenez cette histoire de, il est venu auprès de Jésus en disant, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui a donné des consignes et des choses à faire dans sa vie. Et puis après, il est parti. La Bible nous dit, il est parti triste. Pourquoi? Vous vous souvenez? Parce qu'il était riche. Il avait tellement d'argent, tellement de capital, on peut dire tellement d'intelligence, pouvoir dans sa vie, possession dans sa vie. Alors il a dit, oh, moi je veux rien à faire avec tout cela, je dois vendre tout ça, lancer tout ça, par ailleurs, donner à tout ça aux autres. Et te suivre, alors là, ça ne m'intéresse pas. Et puis d'autres, on peut bien regarder le peuple d'Israël. Ça m'a fait réfléchir l'évangile de Luc, l'histoire qui est citée là. Vous vous souvenez, le peuple d'Israël, quand ils ont quitté l'Égypte, l'esclavage d'Égypte, combien de fois ils sont plaignés contre Moïse en disant, mais alors là, toi, tu nous as emmenés dans le désert, on n'a rien à faire, on n'a rien mangé, qu'est-ce qu'on fait ici? Alors là, on a dû rester en Égypte, dans l'esclavage. Parfois, n'est-ce pas? C'est le cas. Quand il pleut, oh, il pleut trop, on a besoin de soleil. Oh, qu'est-ce qui fait sec? Alors là, on a de sécheresse. Endommager toutes les herbes et tout ça, alors là, jamais content. Et puis le verset qui m'incite, celui qui regarde derrière lui au moment où il se met à labourer avec son charrue n'est pas prêt pour règne avec Dieu. Ou peut-être nous pouvons penser aux disciplines que la Bible nous donne pour notre vie d'engager avec le Seigneur. Combien de fois nous avons dit oui, j'aimerais bien être un disciple de Jésus, j'aimerais bien suivre le Seigneur. Et puis Luc nous donne un autre verset en chapitre 14. Comme des grandes foules l'accompagnaient Jésus, il se retourna vers ceux qui le suivaient et le dit. Si quelqu'un veut, vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, sa sœur, ses sœurs, et même à son propre moi, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. En effet, si l'un de vous peut bâtir une tour, il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce qu'il coûtera et le vérifier s'il a le moyen de mener son entreprise à bon fin. Sans quoi, s'il n'arrive pas à terminer sa construction après avoir posé les fondations, il risque d'être la moquerie de tous ceux qui témoignent autour de lui. Regardez, diront-ils. C'est lui qui a commencé à construire et c'est lui qui n'a pas terminé son travail. Ou bien supposez qu'un roi qui soit sur le point de déclarer la guerre à un autre, ne prendra-t-il pas le temps d'asseoir pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui est prêt de marcher contre? S'il rend compte à celui qui est incapable, il enverra une délégation pendant que l'ennemi est encore loin pour négocier la paix avec lui. Et il en de même pour vous. Celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais s'il devient insipide, comment lui rendre-t-il sa saveur? On ne met pas, on ne met, on ne peut plus utiliser ni pour la terre, ni pour le fumier. On fait plus que le jeter. Celui qui a des oreilles pour entendre ce qu'il entend. Et puis, nous trouvons plusieurs choses que le Seigneur utilise, des versets que le Seigneur utilise de parler à notre cœur. Notre verset qui m'a fait penser, c'est le manque de révélation, de vision et d'obéissance. Le peuple devient indiscipliné et manque de sagesse. Le psaume nous dit « Arrêtez-vous et reconnaissez que c'est moi qui est Dieu ». Nous avons chanté ça tout à l'heure, je crois. Est-ce que l'on est bien préparé pour la rentrée? Est-ce qu'on en profite de ce moment de réflexion? Ce n'est pas le fait qu'on fait que ça en été, ce n'est pas le fait qu'on fait ça que pendant la période de l'été. Mais pourquoi pas commencer si on n'a pas fait? D'y réfléchir, d'y prier, demander au Seigneur, mais alors Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire que je fasse cette année à partir du rentrée? À cause de ça, j'ai beaucoup réfléchi sur un passage qui est un de mes favoris, qui se trouve en Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, tournez dans vos Bibles. Nous allons lire ensemble le premier 5 versets de Hébreux chapitre 12. Actuellement, je vais reprendre le verset qui se trouve à la fin du chapitre 11. Vous vous souvenez d'avoir lu peut-être ces passages en chapitre 11 qui citent combien des prophètes, combien des gens de l'Ancien Testament ont fait des choses intéressantes pour rester fidèles au Seigneur. Ils ont pratiqué leur foi, leur engagement avec le Seigneur à travers plusieurs choses qui étaient même des défis insurmontables, mais ils ont réussi quand même parce qu'ils avaient foi en Dieu. Dieu les a appelés, ils étaient sûrs, Dieu les a appelés, donc ils se sont engagés, mais avec la faiblesse humaine de ne pas arriver de leur propre pouvoir, mais d'arriver seulement avec la force du Seigneur. Verset 39 de chapitre 11. Dieu nous dit, Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi. Et pourtant, aucun d'eux n'a reçu ce qui leur était promis. C'est que Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour nous. Il ne devient donc pas parvenir sans nous à la perfection. Donc, il commence là en disant, bon, pour les gens de l'Ancien Testament, Dieu leur a donné des promesses. Mais leurs promesses n'étaient pas réalisées dans leur vie. Ils vivaient leur vie parce qu'ils voyaient l'avenir en Dieu. Par contre, pour nous, nous voyons l'avenir en Jésus-Christ qui est fait dans le passé. Et c'est pratiquement la même chose pour nous deux. Il faut avoir de la foi, de vivre pour l'éternité, pour vivre dans l'avenir. Il faut avoir la foi en Dieu et en Jésus-Christ. Donc, commençons en chapitre 12, verset 1. Il nous dit, « C'est pourquoi, à cause de tous ces événements qui se passaient, avant, dans des chapitres précédents, il nous dit, « C'est pourquoi nous aussi, qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau, du péché et de tout ce qui nous cerne si facilement de tous les côtés, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce que lui, il avait en vue la joie qu'il était réservée. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice. et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui, pour que nous ne nous laissions pas abattre par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'à la mort dans votre lutte contre le péché, et vous avez oublié cette parole encouragement que Dieu vous adresse comme à ses fils. C'est vrai, il est possible pour nous d'oublier le travail de Jésus. Pour bien faire leur entrée, à mon avis même pour bien vivre tous les jours, il faut bien regarder en avant. Mais en regardant en avant, en regardant le monde, en regardant leur entrée de l'école, du travail, ou les collègues avec lesquels on travaille, même en regardant devant nous, il ne faut pas oublier que Dieu nous appelle de regarder vers Jésus pour avoir une vision correcte. Pendant que je lisais ces passages, je me suis dit, en regardant Jésus, imaginez ce qu'il a fait. Il a pris déjà en charge nos péchés. Il a subi le mépris. Il a subi la honte que ça portait pour mes péchés à moi. Et en plus, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, mais quand même, s'il a payé un tel prix, il doit avoir quelque chose de valeur là-dedans. Bon, la valeur, ce n'est pas moi, pas de mon point de vue. Mais la valeur, c'est la valeur que Dieu regarde en moi. Je pense, par exemple, quand on voit certaines voitures sur les routes, on dit, oh, une telle, alors là, ça doit coûter. Si vous avez passé dans les magasins des voitures, vous avez vu parfois des prix des voitures qui sont énormes. Mais quand on voit une voiture qui vaut un grand prix à côté de la route avec les clignots qui clignotent, on dit, mais alors, même des grosses voitures, des gros prix, ils tombent en panne aussi. Quelle est la différence dans les grosses voitures, les petites voitures? Grand prix, petit prix, mais quand même, ce sont des moteurs, des transmissions, des embrayages, tout ça qui tombe en panne quand même. Mais ça coûte parfois une fortune. Est-ce que vous avez jamais imaginé Jésus, il est mort pour mes péchés? Mais quelle est la valeur de mes péchés? Est-ce qu'on n'a jamais rendu compte de la valeur de nos péchés? Parfois, vous travaillez, vous achetez les nourritures pour vos enfants, et parfois les enfants, ils tournent la tête, ils lancent les nourritures par terre, des choses comme ça. Est-ce que tu sais ce que tu fais? Ça coûte de l'argent. Et qu'est-ce qu'il pense l'enfant? Qu'est-ce qu'il regarde l'enfant? Qu'est-ce qu'il fait de retour? Oh, je m'en fiche. Est-ce qu'on fait ça à Dieu? D'imaginer qu'il est mort sur la croix pour mes péchés? Est-ce qu'on a bien calculé combien Jésus a payé pour mes péchés? Est-ce qu'on a bien calculé de quoi Jésus nous a sauvés? Je crois qu'il est très important pour nous parfois d'y réfléchir ce que Jésus a fait et puis après de dire, mais alors s'il a fait ça pour moi, ça vaut quand même la peine que je fasse attention de ce qu'il a fait. La Bible nous dit dans les versets-là que Jésus est la provision. Il a fait tout ce qu'il fallait faire pour mes péchés, pour nos péchés. En plus, c'est lui qui a y pensé. Ce n'est pas moi qui a inventé le fait que quelqu'un doit payer pour mes péchés. C'est Dieu qui l'a fait en Jésus. C'est Jésus qui a fait ça. C'est Jésus qui est l'auteur de mon salut. C'est Jésus qui est l'auteur de l'amour dont j'ai besoin. C'est Jésus qui est l'auteur du pardon dont j'ai besoin et la grâce que j'ai besoin de recevoir. C'est Jésus qui est l'auteur, qui a réfléchi, qui a pensé à tout cela. Et en plus, c'est Jésus qui est l'exemple. Ces versets-là nous disent que c'est Jésus qui est l'exemple de comment faire. Jésus n'a pas dit, allez, va vivre votre vie comme ça. Il a dit, si vous voulez être mon disciple, il faut venir me suivre. Combien de fois nous pensons de vivre notre vie chrétienne sans réfléchir sur Jésus, sans réfléchir sur sa parole, sans apprendre qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Est-ce que ça vaut la peine ou non? C'est à vous de décider pour vous-même, parce que si vous ne décidez pas, si vous ne prenez pas, vous n'arriverez pas quand même de vivre la vie comme Dieu veut pour nous. On trouve aussi que Jésus, il est suffisant. Vous savez, parfois, quand on achète des choses, et le prix n'est pas toujours marqué, on dit, mais alors, le prix de ce machin-là, le prix de cet article-là, ça coûte combien? Oh, vous savez, ça coûte une telle, et puis après, et on demande, mais est-ce que c'est TTC ou non? Souvent, les prix sont notés TTC, n'est-ce pas? Mais parfois, pas toujours. Il faut y poser des questions. Je me souviens, en pensant des prix des choses d'achat, quand j'étais en train de prendre le français, tout à fait au début, il y a bien des années, je suis allé dans un magasin de bricolage. Et à ce moment-là, on n'avait pas les magasins comme Bricorama aujourd'hui ou Castorama. Ça n'existait pas à ce moment-là. Donc, je suis allé dans la quincaillerie. J'avais du mal à prendre ce mot aussi, hein? Quincaillerie, si j'ai bien prononcé comme il faut. Je suis rentré dans le magasin de quincaillerie. Ah, bonjour monsieur. J'ai essayé d'exprimer ce que je cherchais, un bout de bois. Je dis, mais combien ça coûte? Il m'a sorti un prix comme ça. Et moi, là, je me suis mis, alors là, c'était, il m'a cité le prix en francs anciens. Ce n'était pas le prix en nouveau franc. Moi, je n'ai pas compris. Je me dis, alors là, je n'achète pas ça aujourd'hui. Hein. Je suis rentré chez moi, main vide, sans rien acheter. Parfois, il faut savoir le prix. Pas pour le renoncer, mais pour savoir comment on n'a pas la capacité de payer le prix. Mais vous avez la capacité si vous en voulez. C'est ça la question. Est-ce que vous voulez payer le prix avec Jésus? C'est ça la question pour nous aujourd'hui. Est-ce que nous sommes prêts de payer le prix que Jésus a déjà payé, d'accepter ce qu'il a fait pour nous et la valeur que ça coûte pour nous? Il faut bien s'engager avec le Seigneur dans notre vie pour le suivre. Je voudrais citer l'histoire d'un homme, d'un couple que je connais. Nous avons un collègue qui travaille en Belgique. Et je lui ai parlé cette semaine. Et il m'a raconté une histoire intéressante. Eux, ils ont commencé une étude biblique chez eux, dans la ville où ils habitent. Et ils ont rencontré les gens, bon, je crois que c'était en hiver, quelque chose comme ça, dans les rues. Ils distribuaient des tracts, des choses comme ça. Au bout d'un moment, quelqu'un est venu, on dit, « Ah, mais ça nous intéresse de faire une étude biblique avec vous, si ça vous intéresse. » « Ah bon ?» Elle était très joyeuse, tout ça, oui, très content. Et quelqu'un qui va rentrer faire une étude biblique avec eux. Donc, ils ont entamé une étude biblique avec cette couple et avec d'autres personnes qui le se joindront avec aussi au fur et à mesure, quelques mois. Au courant d'été, ils n'avaient pas d'études, mais pendant la période de l'été, à la fin du mois de juillet, début d'août, ils ont reçu un email. Nous avons bien étudié les choses, nous avons bien regardé les choses, on est bien content d'étudier la parole de Jésus, le verset biblique que la Bible nous dit, mais nous, on ne veut pas du tout avoir rien, on veut rien avoir avec notre engagement avec Jésus. Alors là, ça lui laissait bêche bue, hein. Sa bouche verte, alors. Bouche B, voilà. Pour avoir ce que Jésus a pour nous, il faut trouver un engagement avec lui. La démarche avec le Seigneur Jésus, ce n'est pas la connaissance dans notre intellect, mais la connaissance personnelle et l'engagement personnel avec Jésus. La parole nous dit de nous engager avec Jésus, d'avoir une vision correcte, il faut viser Jésus dans notre vie quotidienne. Une autre chose que les paroles là nous citent, c'est l'idée de discipline. Alors là, parfois, on ne veut pas se discipliner. Mais qu'est-ce qu'il dit là? Tout à fait au début, il a dit, si vous voulez une telle chose dans votre vie, si nous voulons vivre une telle chose dans notre vie comme eux, ils ont fait dans le passé, c'est à nous d'engager, mais aussi d'engager dans une œuvre particulière. Débarrassons-nous des fardeaux et du péché qui nous cerne facilement de tous côtés. Voyez l'image qu'il nous donne. J'ai pensé ce matin de penser à une course, d'apporter un manteau, des bottes et des choses très lourdes pour faire un exemple de si on veut faire une course, il faut enlever les choses qui n'est pas nécessaire pour faire une course. Mais mettre des vêtements de course, changement de vie, changement de direction, changement d'amour, changement d'affection, changement de but, changement de peut-être d'entourage. Changement de nos possessions ou ce qui nous possède. Changement de point de vue, ce qui était autrefois important est maintenant plus important. Priorité dans notre vie. Est-ce que nous sommes prêts de nous dépouiller des choses, laisser le Seigneur travailler dans notre vie pour enlever les choses qui nous empêchent de le suivre? Parfois, il y a une histoire, je crois que c'est l'Amérique centrale quelque part, peut-être Bernard le connaît. Pareil qu'il y a un endroit, peut-être ça se trouve en plusieurs endroits dans le monde, mais il y avait un endroit où il voulait attraper des singes. Donc il prend une vase avec une partie qui est plus grande que le nuque. Et ils mettent de viande ou quelque chose à manger dedans. Et ils accrochent la vase avec une corde à un arbre. Et ils mettent la viande dedans. Il y a des singes qui viennent pour chercher la nourriture. Ils mettent le poignet dedans. Ils attrapent les choses à manger. Et quand ils essaient de faire sortir la poignée, ça ne sort pas. Parce qu'il a fait ça. Il a attrapé les choses qu'il voulait manger. Plus qu'il tire, il ne peut pas sortir parce qu'il tient toujours cette chose à manger. L'exemple qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on tient dans notre main? Qu'est-ce qu'on veut dans notre vie? Qu'on la prenne, qu'on ne la lâche pas pour suivre Jésus. Discipline personnelle. Pour faire les études dans certaines matières, on ne peut pas faire les études, peut-être dans d'autres, peut-être les cours ne sont pas disponibles au même temps. Pour travailler dans une entreprise, on ne peut pas travailler dans une autre. Pour avoir des enfants, Alors là, ça demande la discipline des parents. Pour nous, en tant que chrétiens, pour suivre la volonté du Seigneur, il nous demande parfois de laisser tomber les choses qui nous pèsent lourd dans notre vie, des empêchements, des choses qui nous rendent aveugles pour suivre le Seigneur, des choses qui nous bloquent pour voir l'avenir dans le Seigneur. Je ne sais pas pour vous ce matin, mais c'est un moment d'y réfléchir peut-être pour nous avant la rentrée, avant d'entamer une autre continuation du passé comme il était. Peut-être c'est un moment d'y réfléchir, la possibilité de faire autre chose ou de faire les choses différemment. Nous voyons aussi qu'avec cette discipline, le Seigneur nous dit qu'il y a quelque chose de très important. En disciplinant notre vie, Dieu nous dit que nous soyons déjà peut-être parfois des exemples devant les autres. Verset 14, il nous dit, « Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en imposant plusieurs, empoisonnant plusieurs d'entre vous. » Il y a un verset qui se trouve aussi dans le 2 Corinthiens, ces versets, « Je ne puis que remercier Dieu. Il nous associe toujours au cortège triomphal du Christ pour notre union avec lui, et il se sert de nous pour répandre en tout lieu comme un parfum la connaissance de Christ. Oui, nous sommes pour Dieu comme le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sur la voie du salut et parmi ceux qui sont sur la voie de la perdition. » Tous ces versets pour nous dire que nous sommes des exemples de l'œuvre de Dieu. Dans la vie romaine, quand ils faisaient des guerres dans le passé, les guerriers rentrent dans le village, dans la ville, pour fêter le fait d'avoir gagné la guerre. Ils sonnaient les trompettes, tout le monde criait, ils mettaient même le feu partout dans les villages pour faire le fumer, pour que ça fait une odeur intéressante et attirante pour tout le monde de faire une fête ensemble pour la guerre qui était gagnée. Mais même si on était resté chez soi, on n'est pas allé pour voir la parade et tout ça, le défilé, on faisait part quand même du fait parce qu'on sentait l'odeur. On a entendu le bruit qui était fait. Vous allez voir peut-être d'ici quelques semaines, vous avez vu peut-être pendant le 14 juillet, vous n'étiez pas sur le lieu peut-être des fêtes, des feux d'artifice, mais vous avez entendu le feu d'artifice. Ça vous fait réjouir un petit peu de dire « Ah, ils font la fête ». C'est la même chose qu'il était en train de dire ici. Paul est en train de nous dire, nous des chrétiens, déjà avec ceux qui sont des croyants, des frères et des sœurs en Christ, nous sommes des messagers d'encouragement des uns pour les autres. L'œuvre de Dieu qui travaillait dans notre vie. Mais en même temps, n'oubliez pas qu'il y a ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui nous regardent, qui font attention. J'ai parlé récemment avec un homme qui vient d'Angleterre. Il m'a dit, bref, il n'est pas croyant. Mais une chose qui m'a cité dans ce discours qui m'a donné la raison pour laquelle il n'est pas croyant, mais je connais quelqu'un quand même qui se disait né de nouveau, qui est chrétien, qui est croyant, qui faisait beaucoup de choses, qui est parti d'aller dans un autre pays pour servir Dieu, pour faire le travail de Dieu dans un autre pays. J'entends quand même des histoires, des choses intéressantes. Comment Dieu les aide dans les choses, dans la vie, dans les circonstances de la vie. Comment Dieu les aide pour surmonter des difficultés dans leur famille. Comment Dieu les aidait, je dis. Tiens, vous voyez, c'est la même chose. Bien qu'ils disaient qu'ils ne croyaient pas en Dieu, ils voyaient la manifestation de Dieu à travers cette famille. Même que lui, il ne voulait pas accepter que Dieu existait. Il a accepté quand même que c'est valable pour cette famille. Ça lui a apporté quand même quelque chose. Donc, pour se rentrer, il ne faut pas oublier le fait que Dieu nous utilise pour être un témoin et un encouragement les uns pour les autres, mais en même temps, un témoin envers ceux qui perdent leur vie, qui sont en perdition. Finalement, j'aimerais bien demander à Eric, je lui ai demandé tout à l'heure, de lire un passage assez long qui se trouve en Hébreux chapitre 12, commencez verset 18 jusqu'à la fin de ce chapitre.
La Jérusalem céleste, de dizaines de milliers d'anges de la réunion de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, de Dieu, juge de tous, des esprits les justes portés à leur accomplissement, de Jésus, le médiateur d'une alliance neuve et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Prenez garde de ne pas repousser celui qui parle. En effet, si ceux-là n'ont pas échappé qui ont repoussé celui qui les avertissait sur la terre, à bien plus forte raison, n'échapperons-nous pas si nous détournons de celui qui nous avertit dans les cieux. Sa voix ébranla alors la terre, et maintenant il a fait cette promesse. Une fois encore, je ferai moi-même trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. Une fois encore, montre bien que doit être mis à l'écart ce qui, ayant été fait, peut être ébranlé, pour que demeure ce qui ne peut pas être ébranlé. Ainsi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, montrons notre gratitude en rendant à Dieu un culte qui soit agréé de lui, avec piété et avec crainte. Car notre Dieu est aussi un feu.
Merci. Il est en train de reconnaître que le peuple dans l'Ancien Testament, dans le passé, ils ont vécu quand même un moment terrible parce qu'ils ne voyaient pas quand même l'avenir. Ils marchaient dans le vide sans comprendre ce qui va se passer. D'ailleurs, c'est un petit peu la même chose pour nous. Par contre, eux, ils craignaient, ils avaient une certaine croyance qui leur a mis dans la crainte devant Dieu. Or, pour nous, aujourd'hui, en Jésus-Christ, à travers l'œuvre de Jésus-Christ et l'exemple de Jésus-Christ, nous voyons l'amour de Dieu. On n'a pas besoin de craindre Dieu. Et je crois que l'auteur de Hébreux est en train de nous dire, il est très important pour nous, donc, alors, de vivre une vie, si vous voulez, de stabilité. Une vie qui est cohérent, un exemplaire de pas simplement ce qu'on fait, mais ce qu'on fait correspond avec ce qu'on pense. Ce qu'on fait correspond avec ce qu'on dit. Une vie de stabilité qui porte un témoignage et même qui nous aide de louer le Seigneur en pleine connaissance, dans l'amour et l'exemple à travers notre engagement avec Jésus-Christ. Je voudrais, en terminant, citer le psaume de David, le psaume 15, versets 1 à 5, c'est tout le psaume. Mais je voudrais lire ce passage et de citer plusieurs choses qui parlent de la stabilité et l'intégrité pour ceux qui sont des croyants en Dieu. Un exemple. Verset 1, le psaume 15. L'Éternel qui peut rester dans son sanctuaire et qui donc peut, qui peut rester dans le sanctuaire et qui peut donc demeurer sur la montagne sacrée. L'homme a la conduite intègre. Il pratique la justice et il dit la vérité. Qui pense au fond de son cœur. Il n'insulte pas son frère et il ne raconte rien qui déprécie son prochain. Il lui cause et qui lui cause un préjugé. Il méprise l'homme vil, mais il honore celui qui respecte l'Éternel. Il tient toujours ses serments même quand cela lui fait mal. Lorsque il prête de l'argent, c'est toujours sans intérêt. Il refuse quand on achète pour condamner l'innocent, qui se conduit de la sorte, rien ne pourra l'embranler. Cherchons-nous donc notre relation avec le Seigneur. Laisse-lui parler à notre cœur, de nous offrir la discipline nécessaire, le pouvoir nécessaire, la direction nécessaire, l'engagement nécessaire et la stabilité et le témoignage qui porte un message de l'œuvre de Jésus-Christ en nous et qui est un exemple pour ce qui veut faire, ce qui peut faire dans les autres, chez les autres. Prions, Seigneur. Oui, Seigneur, merci pour ces versets qui nous dirigent dans notre réflexion. Parfois, Seigneur, il est facile à dire, je veux être un disciple de Christ. Mais il est plus difficile, Seigneur, de se taire, de s'humilier devant toi, d'accepter tes encouragements et d'être corrigé par toi. Aide-nous, Seigneur, de surtout se rappeler que tu ne corriges pas pour nous faire du mal, mais pour nous faire du bien. Tu nous corriges parce que nous sommes tes enfants. Tu nous aimes. Tu veux le bien pour nous. Et en comptant le prix que tu as payé pour nous, Seigneur, l'embarras, la méprise, la honte, les dissimulations des histoires auprès de toi, parmi les hommes pour lesquels tu as mouru sur la croix. Pour moi aussi, pour nous aussi, Seigneur, aide-nous de compter le prix, compter la valeur de nos péchés, la destruction de nos péchés. Aide-nous, Seigneur, de nous engager avec toi, ta force, ta puissance, toutes tes capacités pour nous aider, pour nous corriger, d'arriver de te louer, d'être un exemple qui te suivra, un exemple qui porte le message de Jésus sur notre vie. Au nom de Jésus, je te prie. Amen.